France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce dimanche, 2h20 minutes 25 secondes, record personnel battu pour le Kenyan Bernard Biwott. Le marathon de Paris aura fait courir 55 000 passionnés dans les rues de la capitale. Nous rejoindrons notre reporter Clément Arnal sur la ligne d'arrivée. Une matinée de violence au nord-est de l'Ukraine. Une frappe de missiles russes parmi les civils a fait au moins 31 morts, dont 2 enfants. Il y a 83 blessés au moins. À Gaza, le principal hôpital a été détruit. Il est désormais hors d'usage après une frappe israélienne. Bruno Retailleau s'envolera ce soir pour le Maroc. Et comme dans le dossier algérien, il s'agira d'abord de faire avancer les questions d'immigration. À Vivonne, près de Poitiers, les recherches sont désormais plus ciblées pour retrouver la joggeuse disparue depuis jeudi. Nous serons sur place avec notre envoyée spéciale Sandrine Etoa-Andeg. Le sport, c'est aussi le départ du Paris-Roubaix et la finale du tournoi de Monte-Carlo. Alcaraz contre Musetti. Alcaraz vient de perdre le premier set. Nous serons en direct sur le Rocher avec Fabrice Abgral. Et puis il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin dans une maison de retraite où les pensionnaires apprennent à danser le hip-hop et ça les met en joie.
Championne de hip-hop, hip-hop, c'est ça qu'on dit. Touk, 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 zou, zou, touk, touk.
Et le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, avec de bonnes averses sur le sud.
Oui, entre les Pyrénées, la région PACA et la Corse, mais aussi en remontant sur le flanc est hein, jusqu'à la Franche-Comté.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Mais qu'est-ce qui les fait courir ainsi? Ce matin, sous le soleil humide, sous le ciel humide de la capitale, 55 000 participants ont pris le départ du marathon de Paris, remporté chez les hommes par le Kenyan Bernard Biwott en 2 heures, donc 20 minutes 25 secondes. Chez les femmes, victoire de l'Éthiopienne Betadou Hirpa. Les premiers athlètes sont partis des Champs-Élysées avant 8 heures ce matin, départ échelonné selon les niveaux. Clément Arnal, vous êtes sur la ligne d'arrivée et en petite foulée, souvent les athlètes arrivent avec quelques souffrances. Hein.
Oui, petite foulée, voire même marche un petit peu boiteuse hein, pour beaucoup. Là, ce sont ceux qui visaient les 3h30 environ qui commencent à arriver vers moi. On voit des visages tirés, certaines personnes aussi prises en charge hein, par les secours. Faut pas oublier que le marathon, c'est un effort très intense qui peut avoir aussi des conséquences. Faut faire attention. Mais bon, pour la plupart quand même, je vous rassure, c'est la joie qui prédomine après ces efforts très intenses sur un parcours qui me décrise, que beaucoup ici me décrivent comme difficile. Les 20 premiers kilomètres, ça va pour la plupart, mais les 20 derniers, le deuxième semi, c'est là que ça commence à tirer. Encore une fois, je le vois sous mes yeux, hein, beaucoup de visages tirés, des gens crampés, ça se voit sur les visages. C'est un effort, voilà, qui est intense, mais voilà, il y a aussi les sourires. Là, il y a un stand photo juste devant moi où les gens se prennent en photo. Ils sont fiers, évidemment, d'avoir bouclé ces plus de 42 kilomètres. Il y a aussi des gens qui se félicitent. C'est plutôt beau à voir, hein, entre nationalités. Ça se check, ça se congratule. Enfin, voilà, une belle ambiance à cette arrivée du marathon, pas très loin de l'Arc de Triomphe. Là, c'est l'heure du ravitaillement pour ceux qui ont terminé. Ils vont récupérer des gâteaux, des bananes, évidemment, aussi de l'eau après ces efforts. Voilà, une belle ambiance à l'arrivée près de l'Arc de Triomphe. Après, un gros effort lors de ce marathon.
Un gros effort, effectivement. Clément, vous êtes à côté d'Anne-Sophie et Mélanie. Ce sont deux amis qui ont préparé ensemble ce marathon.
Oui, alors avec moi, il y a tout d'abord Mélanie. C'est son premier marathon. C'est Anne-Sophie, évidemment, je me trompe. Pardon, Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est votre premier marathon. Racontez-nous comment vous l'avez vécu.
Eh ben, écoutez, je l'ai très bien vécu. À partir du 20e kilomètre, j'avais quelques douleurs au niveau des jambes, mais j'ai pensé à m'hydrater et à m'alimenter très régulièrement, donc ces douleurs ont vite disparu. Et à partir du 40e, regain d'énergie avec toute la population et toute l'ambiance qu'il y a, et puis voilà, ça s'est bien passé.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe pour la première fois cette ligne d'arrivée du marathon ?
On est fiers, surtout d'avoir maintenu l'allure qu'on voulait, et on se dit que le prochain sera encore mieux.
Vous voulez raconter une petite anecdote sympa, c'est sur ce pourquoi vous avez pris ce dossard, pourquoi vous êtes lancé dans ce marathon de Paris?
Alors moi, ça fait 2 ans que j'accompagne au marathon des amis, donc du 20e au 42e, et sachant que je suis très endurante, mes amis, lors de ma crémaillère, ont trouvé plutôt la bonne idée de me prendre le dossard du marathon. Donc j'ai pas eu trop le choix de le faire cette année, mais sans regret, c'était super.
Voilà, pas de regret. Eric, je crois que vous avez une question vous aussi à poser.
Oui, pour Mélanie. Mélanie, je crois que vous avez couru ce matin pour l'association Nina, un rayon de soleil, association qui se bat contre le cancer de l'enfant. Courir pour vous, c'est donc aussi un engagement solidaire, humanitaire.
Oui, bonjour Eric. Oui, effectivement, j'ai décidé de prendre le départ du marathon de Paris donc pour accompagner mon ami et aussi pour défendre une cause qui m'était chère, donc la lutte contre le cancer. J'ai perdu mes deux parents qui ont eu chacun une tumeur et c'était important pour moi de montrer que qu'on pouvait transformer un deuil en force et puis continuer à se battre pour des nobles causes. Donc j'ai choisi l'association Nina un rayon de soleil, j'ai ouvert une cagnotte j'aurai l'honneur de pouvoir leur remettre un chèque de 1000 euros
Et sachez que vous étiez ce matin près de 6000 marathoniens à courir ainsi pour une cause humanitaire ou bien solidaire. Merci beaucoup de ces témoignages à l'arrivée donc du Marathon de Paris et merci à vous Clément Arnal avec les moyens techniques de Florent Bujon. Marathon de Paris donc remporté chez les hommes par le Kenyan Bernard Biwott et chez les femmes par l'Éthiopienne Betadou Irpa, Hassan Shadi, l'un des meilleurs marathoniens français de l'histoire, 20e au JO de Paris l'an dernier, lui, a dû abandonner.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Une frappe de missile russe a fait de nombreux morts ce matin dans la ville de Soumy. C'est au nord-est de l'Ukraine. Il y a au moins 31 morts, dont 2 enfants, 83 blessés au moins. Le maire de la ville précise que ce sont des civils qui ont été visés. Faustine Calmel, vous êtes notre envoyée spéciale en Ukraine. Bonjour.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
Les rues de la ville étaient bondées ce matin au moment de la frappe.
Les deux missiles balistiques russes sont tombés en plein centre-ville. Des vidéos montrent des corps à terre enchevêtrés sous la poussière et les gravats, des voitures en feu, les secouristes courant d'un blessé à un autre. Parmi les 83 personnes blessées, on dénombre 7 enfants selon les autorités. La frappe, elle a touché cette ville de Soumy à une heure d'affluence. C'est aujourd'hui le dimanche des rameaux. Beaucoup d'habitants se rendaient à l'église ou sortaient de la messe. Pour vous faire une idée de la situation, Soumy, c'est à une trentaine de kilomètres de la frontière russe. C'est d'ici que les forces ukrainiennes ont lancé leur offensive vers la région de Koursk l'été dernier, avant de devoir largement se replier. C'est un secteur où les Russes maintiennent une très forte pression. Ils ont annoncé en fin de semaine avoir repris un village côté ukrainien. La ville de Soumy elle-même vit au rythme des alertes, bien loin de tous les pourparlers diplomatiques en vue d'une trêve qui paraît si lointaine.
Faustine Calmel en Ukraine avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. À Gaza, c'était l'un des derniers hôpitaux encore en fonction, l'hôpital Al-Ali. Eh bien, il est désormais hors d'usage, détruit la nuit dernière en partie par 2 missiles israéliens. A priori, il n'y a pas de victimes car le bâtiment aurait été évacué préalablement. Amira Souilem, vous êtes notre correspondante dans la région.
Des patients allongés sur leurs brancards, d'autres encore reliés à des bouteilles d'oxygène, sortis à la hâte de l'hôpital dévoré par les flammes. Les images qui nous arrivent de Gaza ce matin montrent des scènes de panique et de cohue au milieu de la nuit. Des employés de l'hôpital assurent avoir reçu un appel d'avertissement d'un responsable israélien quelques minutes seulement avant le bombardement. Le service des urgences, la banque de sang, les réserves d'oxygène et la pharmacie ont été détruits. L'établissement avait déjà été la cible d'une attaque en octobre 2023, qui avait fait des centaines de morts. Israël et le Hamas s'étaient alors accusés mutuellement d'en être à l'origine. Dans l'attente d'une enquête, le ministère de la Santé de Gaza, supervisé par le Hamas, indique ce matin que ce sont 80 centres de santé qui ont été détruits depuis le début de la guerre. Le groupe armé palestinien parle de crimes de guerre. L'armée israélienne a réagi aussitôt et accuse le Hamas d'avoir utilisé cet hôpital afin d'y préparer des attaques.
Le dialogue venait à peine de reprendre entre la France et l'Algérie. Eh bien, il est déjà mis à mal depuis la mise en examen d'un agent consulaire algérien en France. Il est suspecté d'être impliqué dans l'enlèvement sur le sol français d'un opposant algérien. Nouvelle tension donc entre les deux pays. L'Algérie proteste vivement contre la détention en France d'un de ses agents consulaires. Quant à Bruno Retailleau, qui a perdu son leadership sur le dossier algérien au profit de l'Élysée et du Quai d'Orsay, le ministre de l'Intérieur s'envolera ce soir pour le Maroc avec les mêmes dossiers que pour l'Algérie, c'est-à-dire l'immigration et notamment l'exécution des OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, Sonia Gobry.
Dans les valises du ministre, une liste de ressortissants marocains que la France veut expulser. Bruno Retailleau espère que cela se passera mieux qu'avec l'Algérie, qui a retoqué celle qui lui avait été adressée en mars. Depuis, le premier flic de France ne gère plus le dossier. Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, ont repris la main. « Je jugerai aux résultats », balait Bruno Retailleau. Sauf que des résultats, lui aussi en a besoin, et si possible vite, notamment parce qu'il est en course pour la présidence DLR. Au Maroc, cela s'annonce plus facile. Depuis la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Sahara occidental, les laissez-passer consulaires, ces documents indispensables pour renvoyer des étrangers dans leur pays, sont déjà délivrés plus vite. Bruno Retailleau explique qu'il faut maintenant consolider ses avancées. Et c'est vrai qu'une victoire à Rabat lui permettrait de faire oublier le camouflet d'Alger.
À Vivonne, près de Poitiers, les moyens humains et logistiques sont moindres désormais, mais plus ciblés pour retrouver la jeune femme de 28 ans disparue depuis jeudi durant son footing. Parallèlement, les efforts se concentrent sur l'enquête judiciaire. Sandrine Etoarandek, vous êtes notre envoyée spéciale à Vivonne. Depuis quatre jours, ce village est décidément bien marqué.
C'est un village paisible et bucolique qui est secoué depuis la disparition d'Agathe, confie à la mère de Vivonne, 4500 habitants. La joggeuse, partie courir avec son téléphone portable dans les alentours, elle n'a pas donné signe de vie depuis jeudi matin. Il y a l'angoisse et la sidération dans les échanges des habitants dans les rues et les commerces, mais aussi l'espoir d'une issue positive, alors qu'aucune piste n'est écartée à ce stade dans l'enquête pour disparition inquiétante. Des citoyens volontaires, bons connaisseurs de ce secteur très boisé, ont participé activement aux recherches hier, notamment des membres de son club de running. Certains ont même refait un tour ce matin sur le parcours habituel d'Agathe, joggeuse expérimentée. C'est désormais la quarantaine de gendarmes qui continuent les recherches de manière plus ciblée, comparée aux dernières 48 heures. Ils affinent les pistes déjà explorées pour retrouver Agathe.
À Villeurbanne, pour la Pâque juive, la présence policière est renforcée auprès des synagogues. Deux jours après une nouvelle agression antisémite, c'est la troisième dans cette ville de la banlieue de Lyon. Vendredi, un homme portant un collier avec une étoile de David a été pris à partie par deux hommes. L'un l'a frappé au visage en le traitant de sale juif pendant que l'autre filmait la scène. La préfète Fabienne Bouzio assure à la communauté juive sa détermination à lutter contre les actes antisémites.
La victime portait effectivement une étoile de David autour de son cou. Il y a eu une agression, il a été traité avec des mots qui ne font pas de doute sur le fait qu'ils l'ont assimilé à un membre de la communauté juive. C'est effectivement une agression que l'on qualifie à ce jour d'antisémite. C'est quelqu'un qui promenait son chien, qui est plutôt jeune, hein, la trentaine. Bien sûr qu'il est encore choqué, et on le comprend. Hein. Une agression, c'est jamais facile à vivre. Et puis en plus, une agression parce que vous êtes membre d'une communauté, c'est tout à fait inadmissible.
Après la dernière volte-face de Donald Trump concernant les droits de douane, le ministre français de l'économie, Éric Lombard, estime qu'un espace de négociation se dessine désormais avec les Américains. Il le dit dans une interview à Ouest France. Éric Lombard, qui reste toutefois prudent, il ne faut certainement pas crier victoire. Et pour maintenir l'objectif de déficit à 4,6% du PIB en 2026, eh bien, il va falloir faire un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros, ce qui est considérable, prévient donc le ministre de l'économie, Éric Lombard. Les sports, on y retourne avec les cyclistes hommes du Paris-Roubaix. Ils se sont élancés ce matin un peu avant 11h30, 259 km à parcourir, parfois sur les pavés acérés. Mathieu Van Der Poel est victorieux du Milan-San Remo et Tadej Pogacar, vainqueur du Tour des Flandres, ont rendez-vous donc pour un nouvel affrontement. Le sport, c'est aussi le tennis, avec la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le ciel est gris au-dessus du rocher, la pluie est prévue, ou en tout cas attendue, et ça a perturbé le calendrier. La rencontre a débuté à midi, non pas à 15h comme d'habitude. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Finale donc sur le court Régnier 3, entre numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz, et la surprise italienne, Lorenzo Musetti. Et Carlos Alcaraz est en souffrance, hein.
Il est en difficulté, Carlos Alcaraz, tout simplement parce que il a perdu le premier set, remporté donc par Lorenzo Musetti sur le score de 6-3. Et dans la deuxième manche, ça va mieux pour Carlos Alcaraz, beaucoup mieux, 4-0 en faveur de l'Espagnol. L'Espagnol qui a déjà pris deux fois donc dans cette deuxième manche les services de Lorenzo Musetti. Hein, Lorenzo Musetti qui ne s'est pas laissé impressionner par Carlos Alcaraz dans la première manche. Il a joué complètement libéré, contrairement à Carlos Alcaraz qui a eu du mal à rentrer dans la rencontre. On l'a senti un petit peu emprunté et forcément Lorenzo Musetti en a profité donc pour remporter ce premier set en 42 minutes. Un Carlos Alcaraz comme d'ailleurs Lorenzo Musetti qui vise tout simplement un premier titre ici à Monte Carlo pour leur première finale sur le rocher. Carlos Alcaraz qui pourrait très bien succéder à un certain Rafael Nadal au palmarès. Sachez que Rafael Nadal a disputé sa première finale à Monte Carlo en 2005, il y a 20 ans, et il s'était imposé. Il avait remporté le premier de ses 11 titres ici à Monte Carlo. Il n'avait que 2 ans à l'époque, enfin il était dans l'année de ses 2 ans, Carlos Alcaraz. Et bien 20 ans après, il pourrait très bien, comme Rafael Nadal en 2005, remporter ici le tournoi de Monte Carlo. On n'en est pas là pour l'instant. Premier set pour Musetti, 6-4 et 4-0 pour Carlos Alcaraz au service pour mener 5-0.
Fabrice Abgral en direct de la finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Nous allons à présent à la Biennale Émergence qui se tient jusqu'à ce soir au Centre National de la Danse à Pantin, près de Paris. Le recyclage au service du design et un versement. C'est ouvert au public, c'est gratuit. Et si vous souhaitez découvrir des œuvres originales avec des artistes qui mettent donc le recyclage des matériaux au cœur de leur création, alors c'est le bon endroit. Reportage, Chloé Sénard.
Ces bouteilles de bière qui oscillent entre le marron et le orange, Théo Charras les trouve un peu partout, à la fin des soirées, chez des amis et dans la rue. C'est sa matière première.
J'enlève le goulot et le culot, ce qui me donne un espèce de cylindre neutre. À partir de cette pièce, je vais l'assembler de différentes manières pour créer des suspensions lumineuses, des lampes.
Le designer de 26 ans présente aussi une grande bibliothèque dont les planches de bois sont tenues par 60 cylindres de verre. Il s'est intéressé au réemploi des matériaux pendant ses études.
J'ai commencé avec d'autres matières, ça pouvait être les branches qu'on va chercher en forêt. Donc pareil, il y a un côté économique et un côté aussi, on est acteur de la ressource qu'on utilise en fait.
Dans les allées, on retrouve de la céramique à base de coquilles d'huîtres, des paravents composés de textiles usagés. Le recyclage est désormais naturel pour la nouvelle génération de designers, selon Elena Ijbia, co-commissaire de la Biennale Émergence.
Le déchet fait partie de leurs outils de fabrication ou de leurs matériaux de fabrication. Ils n'envisagent plus le déchet comme on pouvait l'envisager il y a 10-20 ans. Je dirais que le réemploi n'est plus une question. Ça fait partie de la philosophie de vie d'un designer, en fait.
La Biennale propose aussi des ateliers d'initiation à la broderie ou d'assemblage de pierres.
Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin avec ses grands-mères de 75 ans et plus. Second épisode dans la résidence Domitis de Torigné-Fouillard. C'est près de Rennes. Voilà donc des dames qui s'exercent à la danse du hip-hop et elles y prennent goût. Ce hip-hop sur une chaise, pour elles, évidemment moins acrobatique que ce que font les jeunes. Et c'est un jeune breton, Clément Noël, passionné de hip-hop, donc qui a convaincu des EHPAD et autres résidences seniors d'Ille-et-Vilaine d'inscrire leurs pensionnaires à ces activités. La séance commence.
Lucienne, Claudine, Antoinette, Bernadette, nos danseuses sont calées sur leurs chaises. On attend la dernière qui s'installe.
Je vais mettre mon déambulateur là, moi. Voilà.
Vous êtes ?
Françoise.
Françoise, moi Sandrine.
Oui.
Moi je ne sais pas danser le hip-hop, donc... Vous êtes beaucoup plus moderne que moi, madame.
Peut-être.
Allez, comme d'habitude, on commence par la tête.
Les coups et les épaules balancent de gauche à droite.
Et qu'est-ce qu'on fait avec les bras? Vous vous rappelez ou quoi qu'on fait ça?
Faut onduler les bras, comme ça. C'est la vague. Hein, c'est ça, Clément?
Exact.
Et on fait hop, hop.
Vous avez quel âge?
77.
Nicole qui fait partie des fidèles.
Oui, oui, championne de hip-hop. Hip-hop, c'est que ça qu'on dit.
Et vous l'aimez, la musique hip-hop?
Oui, j'aime bien. Touk, 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 zou, zou, touk, touk.
Et c'est reparti. C'est maintenant les chaussons qui font des ronds en l'air. Clément se remémore son premier coup de fil à la direction.
Je leur dis, voilà, j'ai envie de proposer du hip-hop aux résidents. Blanc. C'est-à-dire, vous dansez devant les résidents, vous dansez avec les résidents. Bah, je fais du hip-hop. Mais vous savez que nous, les résidents, ils ont 80 ans. Oui. Le plus dur, ça a été de faire comprendre que on peut danser du hip-hop en ayant 90 ans. On fait pas faire des saltos arrière aux résidents. Ok. Ensuite, sur le côté, coup de pied.
Les jambes en l'air. C'est pas au point.
Comment ?
Je mélange les jambes.
la première fois qu'on vous a parlé de hip-hop, ici?
Ben, on avait vu à la télé, on les voyait tourner sur la tête et tout. J'ai dit, ils sont malades, on va pas faire ça, nous, c'est pas possible.
La première fois que vous en avez parlé à vos petits-enfants?
Quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, c'est pas possible que tu fais ça. Le hip-hop.
Françoise, elle, s'est rapprochée de sa petite fille.
Ah oui, quand je lui ai dit, elle me dit, bah, dis donc, c'est drôlement bien pour toi et tout. Sur chaise, elle me dit, ça doit être marrant. Bah, je dis oui. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à nos soucis. Quand je viens là, ça me fait un bien fou. Parce que moi, j'ai perdu mon mari, en 2023.
Quel rapport avec le hip-hop?
Ça nous transporte ailleurs. J'ai pas pensé du tout, à mon mari ou un truc comme ça. Et puis voilà. On passe une heure de bonheur. Voilà, c'est tout. Une heure de bonheur.
Et on tape. 3, 4, 5.
Le hip-hop qui change donc les habitudes et les idées de ses pensionnaires de cette maison de retraite dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien le ciel est encore pluvieux sur le sud du pays. Hein.
Oui, c'est là que se concentre la perturbation d'hier qui s'est décalée vers le sud, entre les Pyrénées, la région PACA et la Corse, où on aura d'ailleurs de bons cumuls sur les reliefs. Ces averses soutenues remontent également le long du flanc est jusqu'en Franche-Comté. Pour les autres, c'est beaucoup plus calme avec un ciel variable. Alors on a encore beaucoup de passages nuageux, mais on aura aussi le retour d'éclaircies. Ça reste juste un petit peu plus couvert entre la Bretagne et la Normandie avec là encore un risque d'averse.
Et on peut parler d'une ambiance très douce.
Oui, et ça même si on perd quelques degrés après le passage de la perturbation. 14 degrés à Brest, c'est l'une des plus basses. 16 à Lille, 17 degrés à Lyon, 18 à Limoges, 19 à Paris, Bordeaux, Marseille, 20 degrés à Ajaccio et 21 pour la maximale à Strasbourg.
Les prévisions de Céline Dacosta.